يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله dit dans son livre, dans le Coran, il nous dit que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. إلا ليعبدون. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre donc de ce verset? Est-ce qu'on doit comprendre que Allah il nous donne donc l'objectif, la finalité de cette vie, et il nous dit que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que ça veut dire que on doit être en constant état d'adoration, de prière, de jeûne, etc., etc.? Ou bien y a-t-il un autre sens à comprendre à travers cela? Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette khutbah, inshallah. Et on va essayer de le comprendre déjà en expliquant le mot ibada. Donc le mot ibada, il est constitué, c'est une forme trilétaire. Dans la langue arabe, la forme trilétaire, c'est trois lettres. Donc l'ain, le ba et le del, donc ibada, abada. Et dans ce terme, on a abada, le verbe abada, qui veut dire le verbe de vénérer ou d'adorer. Donc dans l'adoration ou la vénération, donc l'adoration. Et dans le même sens, il a aussi le sens de abd. On retrouve le terme de abd, qui est ce qu'on avait, on avait déjà vu la dernière fois, une khutba précédente. On avait dit que c'était l'esclave. D'accord? Et on va essayer d'expliquer le lien qu'il y a entre les deux. En fait, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que il y a une différence entre abd al-bashar, donc quelqu'un qui est esclave d'une autre personne, ou abdullah, ou quelqu'un qui est l'esclave d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui est l'esclave d'un autre homme, en fait, les deux sont de même nature. D'accord? Un maître qui prend un esclave, il est de la même nature. C'est un homme, il n'est pas supérieur à lui. D'accord? En plus, c'est un esclavage qui est forcé. Il y en a un qui subit. L'autre, il prend un esclave, il le subit. Donc, ce n'est pas un esclavage qui est voulu. Il est uniquement dans le profit du maître, de celui qui se présente être le maître, c'est lui qui profite de l'autre. Et dans son profit, il rabaisse la personne, il rabaisse l'esclave et il l'humilie. Dans le cadre de l'esclavage envers Allah, nous qui sommes des Abdullah, c'est exactement l'inverse. Puisque Allah Azzawajal, c'est notre créateur. Donc logiquement, on se doit d'adorer Allah, logiquement, on est les esclaves d'Allah parce qu'on dépend totalement d'Allah. On dépend dans la création, il nous a créés, et on dépend dans le risque et tout ce qu'on a. Donc la logique, ici, il est plus logique d'être le abd d'un créateur, de Dieu, que d'être le abd d'un être humain qui est de même nature. Ensuite, nous, cet état d'esclavage, on le veut. C'est nous qui le demandons. Et c'est pour ça que pour rentrer en islam, on fait quoi? On fait la shahada. Je témoigne. On témoigne que Allah Azza wa Jalla, c'est le Seigneur. Donc, déjà ici, contrairement à l'autre, elle est voulue. Cet état d'esclavage, elle est voulue. Ensuite, elle n'est pas dans l'intérêt du maître, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est dans l'intérêt de l'esclave. Parce que le maître, c'est Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a absolument pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de lui. Et en plus, cet état d'esclavage dans lequel on est, l'état d'esclavage d'être des serviteurs, des esclaves d'Allah, eh ben, c'est ce qui va nous, Allah nous honore à travers cela. Il nous glorifie, il nous honore. Et qu'est-ce qu'on a à y gagner? Eh ben, une meilleure vie ici-bas et le Jannah. Donc, vous voyez, c'est exactement l'inverse. Donc, être Abdullah, nous, on le consent parce que, on a tout à gagner et on reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a vu le mot abd, on va voir le mot ibada. Donc dans le mot ibada, on l'avait déjà dit aussi, l'ibada, il rentre dans deux domaines. On avait vu qu'il y avait fiqh al-ibadat, d'accord, et fiqh al-mu'amalat. D'accord, fiqh al-ibadat, c'est tout ce qu'il y a dans les adorations, les actes d'adoration, comme la prière, le jeûne, etc. Et fiqh al-mu'amalat, c'est tout le reste. C'est tout ce qu'il y a dans la vie sociale. L'islam gère absolument toute notre vie. Elle gère bien sûr les ibadats, les adorations, mais aussi les mu'amalats, et dedans on va trouver les rapports sociaux, les rapports humains, le commerce, la politique, les loisirs, c'est absolument tout. Et l'islam a tout codé, tout cela est codifié par l'islam. Donc l'islam, elle gère vraiment tous les aspects de notre vie. Et le mot ibada, il a deux sens. Un sens général et un sens spécifique. Le sens spécifique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je vous dis ibada, on va tout de suite penser aux actes d'adoration, comme la prière, le jeûne, etc. Mais le terme général, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans le terme de ibada, eh ben, c'est le fait de obéir à Allah dans tous les domaines qu'on vient de voir, aussi bien dans l'ibadat que dans le mu'amalat. Et c'est dans ce sens où on comprend le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils m'obéissent. Parce que l'adoration d'Allah, elle vient d'abord par son obéissance. Et donc on va obéir à Allah dans le cadre des ibadat et on va obéir à Allah dans le cadre des mu'amalat. Tout ce qu'on va faire en obéissant à Allah, on sera dans l'adoration d'Allah. Si je vais au travail et que j'ai un bon comportement, que je ne triche pas, je suis dans l'adoration d'Allah. D'accord ? Donc on comprend mieux maintenant le verset. Et ici, Allah nous dit, je n'ai créé que pour qu'il m'adore, pour qu'on soit dans l'obéissance d'Allah dans tous les domaines de la vie. Dans le verset, nous dit, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Et ils disent, les croyants, nous avons entendu et سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. D'accord ? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et c'est là où nous, peut-être, on a peut-être une mauvaise compréhension souvent, c'est que on est à une époque où on philosophe beaucoup, on discute beaucoup sur les ordres d'Allah. On veut toujours discuter, oui, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être il y a autre chose. En fait, les croyants, à l'époque du prophète, Hassan Tosam et Sahaba, eux, quand ils entrent, c'est à eux que s'adresse ce verset. Sami'na wa ata'na. Ils ne posaient pas de questions. Allah nous a dit, nous a ordonné quelque chose, on va l'appliquer. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Créateur, c'est lui qui sait toutes choses. Donc, ils ont compris que l'adoration, c'était d'abord le fait de obéir. Et obéir au prophète aussi, alayhi salam, elle rentre dans ce cadre-là, puisque le verset nous dit, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Et celui qui obéit au prophète, il a obéi à qui ? Il a obéi à Allah. On parle encore ici d'obéissance. L'obéissance égale donc adoration. Donc, si c'est évident de comprendre comment on adore Allah dans le cadre des ibadat, puisqu'Allah nous dit, ben, vous allez faire 5 prières, vous allez faire tant de rak'at pour le maghreb, etc. Pour le jeûne, ça se passe pendant le mois de Ramadan, ça c'est évident. Comment donc on va adorer Allah dans le cadre des mu'amalat, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours ? Et bien, tout simplement, en appliquant les préceptes de l'islam dans la vie de tous les jours. Allah nous a donné des préceptes, nous a donné des principes généraux. Et ben, on n'a pas toujours les réponses dans notre vie, puisque ce qu'a vécu le prophète, il a vécu à une certaine époque, et aujourd'hui, on vit une époque différente. Donc forcément, il y a des choses que le prophète n'a pas faites. Et ben, il suffit de comprendre les principes que nous a donné le Coran et la Sunna, et qu'on va appliquer. Exemple, dans le verset, il nous dit وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِزَانِ. D'accord ? Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Dans la Sourate Al-Rahman. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à travers ça ? C'est que dans toute transaction, dans toute vente, on n'a pas le droit de tricher. Tout simplement, on n'a pas le droit de tricher. Et là, il précise bien le poids, la mesure et la pesée pour qu'on comprenne que il y a pas d'issue. On n'a pas le droit, par exemple, de cacher un vice. Enfin, un vice cassé, on vend une voiture, par exemple, on n'a pas le droit de cacher le vice. On va vendre, vous savez, on va peser des aliments, des fruits, des légumes, on n'a pas le droit de tricher dans la pesée. Ce principe, il est valable pour toutes les époques, à toutes les situations. Je comprends que le musulman n'a pas le droit de tricher dans ses transactions, dans ses relations, etc., etc. Donc le principe, il va rester le même pour toutes les époques. Donc aujourd'hui, la question que je vais me poser, quand je vais faire une transaction, eh ben, c'est très facile. Pour savoir si c'est halal, je vais après appliquer les principes que Allah Azzawajal m'aura donné et que le prophète Asatouza m'aura enseigné aussi. Donc, exemple, les interdictions, on sait qu'il est interdit de mentir, médisance, faux témoignage, vol, tromperie, etc. Ce sera valable dans toutes les époques et toutes les situations. Et pareil pour les recommandations, la sadaqa, la bienveillance avec autrui, l'aide, le soutien, être véridique, pratiquer l'équité, être juste avec les gens, ce sera aussi des principes qui seront valables donc à toutes les époques et à toutes les situations. Vous voyez comment on répond au problème de se dire, c'est une situation qui n'a pas existé à l'époque du prophète Asatosem. Oui, mais le principe est toujours là. Le précepte est toujours là. J'ai plus qu'à l'appliquer à mon époque et je sais que je suis dans le halal. Et ce principe, on les applique dans tous les cadres de notre vie. On la vit dans les ibadat, c'est évident. Dans le mu'amalat, on ne sait pas trop, mais c'est dans le cadre professionnel. Si je vais travailler, je ne vais pas tromper mon patron. Dans le cadre des loisirs, bah, il y a des endroits où je peux aller, des endroits où je ne peux pas aller. Mais par exemple, je fais du sport, je n'ai pas le droit de tricher dans le sport. Mais on pense que c'est un domaine où Allah ne va pas nous juger ici. Allah Azza wa Jal, « فَمَنْ يَلْمَا الْمِثْقَارَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى » C'est même dans le loisir, dans le sport, on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit d'avoir des comportements autres que l'islam. Vous voyez, quand je vous dis que l'islam gère absolument tous les aspects de la vie, ça en est là. C'est-à-dire que le principe, on l'applique, la sunna du prophète Assad-Sassam, le comportement du prophète Assad-Sassam, on se l'adopte, et quand on l'a adopté, ben on va l'appliquer dans tous les cadres de notre vie. Et même dans le cadre de tout ce qui est jugement et gouvernance. Jugement et gouvernance, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit juger, que ce soit un juge, un avocat ou autre, ou même une personne qui doit juger une situation, ou bien quelqu'un qui gouverne, d'accord, il a l'obligation de pratiquer les principes de l'islam. Le verset nous dit « إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Dans sourate An-Nur. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Ouais, on revient toujours à la même notion de sami'na wa ata'na. Allah nous donne une recommandation, ou il nous a précisé un interdit, on doit obéir. C'est vraiment, quand je parle de l'obéissance, c'est se dire que ça vient de l'être suprême. Et nous, des fois, on essaie encore de discuter, de négocier, de « oui, oui, mais ça ne veut peut-être pas dire ça, ça veut dire… » Non, à un moment, il faut qu'on soit vraiment dans ta'at. Dans le verset de Surat Maïda, Allah il nous dit trois versets qui se suivent. « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Pareil, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Vous voyez, à chaque fois, il reprend le même verset, celui qui ne juge pas ou qui ne dirige pas parce qu'Allah a descendu, le premier, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, ce sont les mécréants, أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ce sont les injustes, أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ce sont les pervers. Donc vous voyez que on est passé de ibadat, on est venu à tout ce qui est mu'amalat. Et on est arrivé ici à tout ce qui est le jugement et la gouvernance, la politique. Et dans le verset que l'on va voir, Allah va plus loin puisqu'il va lier cela au shirk. Il dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa li'abudu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun » Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. Arbaban min dunillah, c'est-à-dire seigneur en dehors d'Allah, c'est du shirk. Alors qu'il leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Et là, il y a un compagnon qui était un ancien chrétien, qui s'appelle Adi ibn Hatim. Lui, c'est un ancien chrétien, il ne comprend pas le verset. Et il va voir le prophète Aïssat Salam, il lui dit, mais le verset du Coran, il nous dit, Allah Azza wa Jalla, il nous dit que on les a pris comme divinité en dehors d'Allah. Lui, il était chrétien, il n'a jamais pris les rabbins ou les moines comme divinité en dehors d'Allah. Et le prophète Aïssat Salam, il va lui expliquer ce que ça veut dire. Il va lui dire, ne rendait-il pas licite ce qu'Allah a interdit alors que vous le considériez licite? Vous saviez que c'était licite, ils l'ont rendu illicite, et de même, ne déclarait-il pas illicite ce qu'Allah a autorisé alors que vous l'interdisiez? Lui, il dit oui, c'est vrai. Il dit, c'est ainsi que vous les adoriez. C'est ainsi, vous les avez adorés comment? Pas en ayant fait ça, soujoud, rukou, des prières devant eux. C'est pas ça l'adoration ici. C'est le fait de leur avoir obéi. Eux, ils ont transgressé les lois d'Allah. Ils ont dit ça, ce qui était licite, ils ont dit c'est illicite. D'accord ? Ils ont inversé le licite et l'illicite. Le fait de leur avoir obéi, ils les ont. C'est là où le verset dit vous les avez adorés. Non pas par des actes d'adoration, mais par le fait de leur avoir obéi, parce que on obéit normalement juste aux préceptes ou aux recommandations que nous a donné Allah. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu tajiduhu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. On arrive à une époque qui est le 18e siècle. Vous allez voir comment c'est très important. Maintenant qu'on a compris que dans l'islam, que ce soit ibadat ou mu'amalat, tout est absolument géré par l'islam, par Allah Azzawajal, et c'est ce qui est logique, et on va le voir pourquoi. Au 17e siècle, ça a commencé un petit peu avant, mais c'est beaucoup au 17e siècle que ça s'est développé. On va voir ce qu'on appelle les philosophes des Lumières. Descartes, Spinoza, Kant et bien d'autres. Alors, eux, ils vont, on peut pas détailler hein, toute la philosophie des Lumières, ce serait beaucoup trop long, mais c'est surtout, c'est le triomphe de la raison sur la foi, surtout dans deux domaines, économique et politique. Donc le triomphe de la raison sur la foi. Nous, c'est d'abord la foi, et après la raison. Et nous, la raison, elle nous permet d'accepter la foi, comme on l'avait déjà vu. Eux, c'est la raison, c'est-à-dire que je réfléchis par moi-même, je réfléchis par mon nefs, et je triomphe sur la foi. Donc c'est un combat contre la foi. C'est ça les philosophies des Lumières. Et regardez le paradoxe, c'est qu'ils l'appellent les Lumières, à l'inverse de quoi ? Des ténèbres. C'est-à-dire que la religion, c'est les ténèbres, et leur philosophie, ben, ce sont les Lumières. D'accord ? Donc eux, surtout dans deux domaines, pourquoi l'économique et le politique ? Parce qu'en fait, c'est tout ce qui est mu'amalat. Eux, ce qu'ils vont réussir à faire dans leur philosophie, c'est se dire, oui, Dieu, pour l'adorer, ouais, pourquoi pas, mais Dieu, il n'est pas capable de faire des lois pour les hommes. C'est ça leur philosophie. Dieu n'est pas capable de faire des lois pour les hommes. Donc, c'est aux hommes de faire les lois qui leur conviennent. Et on revient à quoi ? On revient à l'esclavage des hommes par des hommes et par des élites. D'accord ? Puisque eux, ils vous disent, Dieu n'est pas capable de faire des lois pour gérer la vie de tous les jours, c'est aux hommes de les faire. Ben, ils vont faire des lois, et forcément, nous, on sera soumis à ces lois, et aurait les dit, et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. D'accord? Et ça, c'est le début de la laïcité, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va séparer deux choses. Al-ibadat, qu'on a vu tout à l'heure, les adorations, ou al-mu'amalat. Les ibadat, c'est pour Allah. Allez-y, vous pouvez adorer Allah. Mais le mu'amalat, c'est nous qu'on va faire les lois. C'est nous qu'on va gérer cela. D'accord? Donc, si on sépare l'un de l'autre, en islam, ça n'a pas de sens. L'islam, c'est un ensemble. D'accord? Vous voyez comment on sépare ça. Mais si on sépare l'un de l'autre, c'est bien pour arriver à toucher aussi au ibadat. C'est bien pour arriver à toucher à la croyance en Allah Azzawajal. Donc on va remettre ici le législateur, c'est-à-dire Allah, celui qui fait les lois. On remet en cause le législateur pour pouvoir par la suite remettre en cause le Seigneur. Puisqu'il n'est pas capable de faire des lois pour les hommes, ben peut-être que l'adoration que vous êtes en train de faire, elle est peut-être fausse. Vous voyez comment on en arrive à l'athéisme et en remettre en question la religion. Et être un bon musulman, si on veut conclure sur tout ce qu'on vient de voir, c'est obéir à Allah, comme on l'a dit, à travers ses préceptes, les principes qu'il nous a donnés. À travers ça, qu'est-ce qu'on fait? On confirme la seigneurie d'Allah à travers les ibadat et les mu'amalat, c'est-à-dire ta'atillah, l'obéissance à Allah. Et c'est là-dessus que j'insiste, hein, vraiment revenir à l'obéissance à Allah et pas trop discuter des ordres d'Allah. Et être un modèle pour la société à travers le bon comportement dans les mu'amalat. Le prophète Al-Sattwassam, il a dit, Inna ma bu'ithu liutamimma ma kalima al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Ça veut dire que nous, les musulmans, on devrait être des modèles dans notre société. Si on appliquait le hadith du prophète Al-Sattwassam, si on comprenait les principes qu'on vient de dire dans l'ibadat ou le mu'amalat, les gens qui nous verraient dehors, ils diraient, mais ils ont des comportements, ils auraient envie de nous fréquenter, ils auraient envie de nous suivre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on doit se poser des questions, nous, sur notre comportement. D'accord ? Donc il a dit, je suis venu parfaire les nobles caractères, c'est que normalement, on devrait rayonner, nous, dans cette société. Allah nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et nous avons fait de vous une communauté du juste, de juste, de la justice, de juste, pour que vous soyez témoins aux gens. Témoins aux gens, ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit le modèle des gens. Pour que les gens puissent accéder à Allah Azza wa Jalla, pour accéder à l'islam, il faut qu'on soit des modèles. On va être des modèles à travers notre comportement. Pour que vous soyez modèles donc, parmi les gens, et que le prophète Azza wa Jalla soit modèle parmi vous. Donc on a eu le prophète Azza wa Jalla comme modèle. On doit copier le modèle du prophète Azza wa Jalla dans son bon comportement, que ce soit ibadat ou mu'amalat, parce qu'on sera, on est témoin auprès des gens. Et vous savez ce que ça veut dire aussi, témoin auprès des gens? Ça veut dire que d'yom al-qiyama, il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire, oh Allah, moi je n'ai pas suivi l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que ce musulman là-bas, il avait un mauvais comportement, et il ne m'a pas attiré dans l'islam. Son mauvais comportement a fait qu'il ne m'a pas du tout, il m'a repoussé de l'islam. Et au contraire, d'autres diront, ya Allah, c'est grâce à un tel, grâce à son comportement, que j'ai pu venir à l'islam, et ce sera donc, c'est ça d'être témoin, ce sera soit un témoignage en faveur de nous, soit un témoignage contre nous. Wa aquli qawli hada wa astaghfirullah tajiduhu ghafurur rahim. Allah